Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. À 3 semaines des élections européennes, la question qui plus que jamais se pose est celle de savoir si les forces nationalistes, populistes, de droite et d'extrême droite pourraient devenir majoritaires au Parlement européen et prendre le contrôle de l'Union européenne, ou tout au moins assez puissante pour contraindre le Parti populaire européen à s'allier avec elle. Que signifie cette perspective et quelles pourraient en être les conséquences sur un certain nombre d'idéaux, dont celui de liberté ? À l'échelle mondiale, rien ne semble pouvoir endiguer la déferlante populiste. Sommes-nous pour autant à la veille d'un effondrement démocratique, où les démocraties sauront-elles se réinventer? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, auteur de très nombreux ouvrages, dont Quand le Sud réinvente le monde, aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur de Les Nationalistes à l'assaut de l'Europe, qui vient de paraître aux éditions Démopolis. Bonjour.
Bonjour.
Le populisme, d'abord quand on est dans quelques pays, est désormais présent dans presque toutes les démocraties, à commencer par les États-Unis. Il est désormais au pouvoir dans toute l'Europe de l'Est et en Italie, indispensable aux coalitions gouvernementales en Autriche, en Norvège, en Finlande, au Danemark, et de plus en plus influent en Allemagne et en France, et conditionne la survie du gouvernement socialiste en Espagne. Seuls 4 États européens finalement échappent à la vague nationaliste, 3 finalement avec la nouveauté avec l'Espagne, les dernières élections, la Belgique, la Grèce et le Portugal. Comment expliquer cette poussée en Europe, Dominique Vidal?
Écoutez, je crois que vous avez très bien montré les données du problème, qui est très sous-estimé dans les médias. C'est très étonnant parce qu'on est peut-être à la veille de changements majeurs en Europe, et tout se passe comme si nous étions dans une élection européenne habituelle, qui d'ailleurs n'intéresse pas grand monde. Visiblement, les chiffres de participation vont être inférieurs encore à ce qu'ils étaient la dernière fois, c'est-à-dire 40 et quelques pourcents en France comme au niveau de l'Europe. Or, vous avez raison, il est peu vraisemblable que les forces nationalistes, d'extrême droite, populistes, on fera le tri plus tard, obtiennent la majorité au Parlement européen. Mais en revanche, elles peuvent être assez puissantes, si elles s'unissent, pour contraindre le Parti populaire européen, la droite traditionnelle, à s'allier avec elles, et avec des conséquences non négligeables, parce que ça veut dire une cure d'austérité nouvelle et violente, un recul sur les questions sociétales, je pense en particulier à la question du droit à l'avortement, et je pense aussi au mariage pour tous, un tour de vis pour les migrants, et éventuellement de nouvelles atteintes aux libertés fondamentales. On voit qu'il s'en produit même en France, mais a fortiori en Hongrie, en Pologne, etc. Je crois qu'on sous-estime en réalité ce qu'a été la poussée et ce que reste la poussée de ces forces. Il y a 17 pays européens où elles font plus de 10%, il y a 8 pays européens où elles font plus de 20%, et il y a 5 pays européens où elles font plus de 30 et jusqu'à 40%.
Ces 5 pays vraiment... européens, ce sont les anciens pays d'Europe de l'Est.
C'est ça. Quand on regarde la dynamique en cours, on est quand même très inquiet. Alors, il y a des craquements ici ou là. Il y a eu des mauvaises élections municipales pour les populistes en Pologne et en Hongrie. Il y a eu la faillite du Brexit. Mais pour le reste, regardez la Finlande, regardez l'Espagne, vous êtes dans quelque chose qui est quand même une poussée extrêmement puissante. On n'est pas devant une vague irréversible, mais on est devant une vague extrêmement forte avec une dynamique. La meilleure preuve, et j'en termine là-dessus, c'est ce qui se passe en Italie. Parce que la Ligue de Matteo Salvini a obtenu, lors des élections il y a un peu plus d'un an, 17% des voix. Dans les sondages aujourd'hui, elle est à près de 35. Elle a réussi à doubler sa force en moins d'un an et, je le précise, en raflant l'essentiel de l'électorat de Berlusconi et une partie de l'électorat du mouvement des 5 étoiles. Donc, on voit bien quand même une dynamique très inquiétante.
Alors, la question de savoir si c'est une vague irréversible ou pas, ce sera peut-être intéressant de s'y poser. Bertrand Badie, peut-être on pourra repréciser aussi nationalisme, populisme, de quoi est-il question de part et d'autre. En tout cas, ce mouvement n'est pas sorti de rien.
Oui, alors vous avez raison d'être prudente dans la distinction des termes qui sont souvent mêlés et presque tenus pour synonymes dans les discours et dans les analyses. Or, en fait, c'est tout à fait différent. Le nationalisme, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui est en transformation, j'y reviendrai dans un instant, mais c'est fondamentalement une vision du monde. Le populisme, ce n'est pas une vision du monde, ce n'est pas une idéologie, ce n'est même pas une politique. Le populisme, c'est une méthode qui correspond à des situations, c'est-à-dire, en gros, une façon de gérer certaines situations de crise affectant les systèmes politiques. Situation de crise qui se caractérise dans le cas du populisme par une défiance à l'égard des institutions. Et le populisme intervient en quelque sorte comme substitut à des institutions qui ne sont tenues ni pour crédibles ni pour légitimes. Donc c'est deux choses tout à fait différentes, ce qui signifie que le populisme peut être manipulé par tout le monde, à droite, à gauche, au milieu. Le nationalisme, lui, renvoie à un corps doctrinal. Mais ce corps doctrinal, il faut être très attentif, il n'est pas figé. Le nationalisme est un concept qui a fait florèse au XIXe siècle, comme on le sait, et avec un sens émancipateur. C'est-à-dire que le nationalisme au XIXe siècle, c'était une triple émancipation. Émancipation par rapport à l'absolutisme, c'est-à-dire la découverte progressive d'une souveraineté nationale. Émancipateur par rapport aux tutelles impériales, et ceci a joué un rôle très important en Europe, où les mouvements de nationalité, comme on disait à l'époque, se développaient là où la tutelle des empires, que l'empire austro-hongrois, l'empire tsariste, l'empire allemand ensuite, venait affaiblir. Et enfin, émancipation par rapport aux tutelles coloniales, le nationalisme, c'est aussi le mouvement qui a conduit aux indépendances qui ont jalonné la seconde moitié du XXe siècle. Ce nationalisme est en pleine évolution. Émancipateur autrefois, il est aujourd'hui presque l'inverse, c'est-à-dire privatif de droit, restrictif de droit et surtout visant à assurer le repli de peuples inquiets, de peuples qui ont peur, repli sur soi-même, repli sur son identité. Ça veut dire en quelque sorte contestation de la mondialisation, contestation de l'intégration. C'est pourquoi le nationalisme aujourd'hui rime avec euroscepticisme, en tous les cas dans notre continent. Et ça veut dire aussi exclusion. Et derrière cette exclusion, il y a bien entendu l'exclusion du migrant qui devient le grand bouc émissaire de ce néo-nationalisme. Mais exclusion de l'autre d'une façon générale et la conviction profonde que pour s'en sortir, il faut fermer les portes, les fenêtres, les volets et verrouiller tout cela. Et du coup, nous nous retrouvons dans une posture de l'enfermement et aussi de la reconstruction du nationalisme autour de thèmes identitaires. C'est-à-dire, ce n'est plus la nation politique d'autrefois, celle-là même qui était émancipatrice, c'est la nation culturelle, presque ethnique, identitaire. On reparle de racines, on nous ressort les racines. Thème qui se répand aujourd'hui à une vitesse absolument extraordinaire. Parler de racines, c'est parler d'identité, redéfinir la nation par rapport à la religion, par rapport, voire à l'ethnie, à la couleur de la peau. On reparle du blanc. Aux États-Unis, la notion de blanc reprend sa force, mais en Europe également. Et donc, c'est une recoloration complète du nationalisme qui a pour cette caractéristique, du coup, dans le contexte de mondialisation et d'intégration que nous connaissons aujourd'hui, n'avoir rien à offrir comme mode de gouvernance, ni sur le plan de la gouvernance mondiale, ni sur le plan de la gouvernance régionale. Et là, il faut faire bien attention à deux choses. Premièrement, le paradoxe de ces mouvements nationalistes en Europe, c'est qu'ils ne demandent plus à sortir de l'Europe. Donc, on est dans une sorte de statu quo figé. Ni Monsieur Salvini, ni Monsieur Orban ne disent qu'ils veulent sortir de l'Europe. Même Madame Le Pen ne le dit plus aujourd'hui. Et de ce fait, ce sont des gens qui siègent au Parlement européen, qui continuent à participer au jeu européen, mais en le bloquant totalement. Le deuxième élément, c'est évidemment de comprendre que ce nationalisme est branché sur une crise politique, celle qu'on évoquait à propos du populisme, d'une crise sociale aussi. C'est-à-dire que derrière ce néo-nationalisme, il y a la peur. Il y a la peur de l'autre, il y a la peur de la mondialisation, il y a la peur de l'intégration, il y a la peur du changement. Il n'y a rien de tel que le changement social et la peur et les frustrations engendrées par le changement social pour créer ces dynamiques nationalistes.
Alors, Dominique Vidal, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais, tant qu'on est dans les définitions, oui, allons jusqu'au bout, donc incluons l'extrême droite. Parce que, en fait, l'extrême droite a été absorbée, d'une certaine manière, par le nationalisme et le populisme d'aujourd'hui, pour les raisons que Bertrand vient de dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça se porte mal. L'extrême droite, ça rappelle le fascisme, ça rappelle le nazisme, ça rappelle des forces qui ont été collaboratrice de l'occupant nazi pendant la guerre. Donc on a eu une évolution très nette dans les dernières années, où on a vu ces forces d'extrême droite se redéfinir en oubliant cette position, je dirais, géographique et politique sur le paysage qui est le nôtre. Donc je crois que c'est très important de noter cette évolution avec ce que vient de dire Bertrand, qui pour moi est tout à fait fondamental, et c'est d'ailleurs la véritable inquiétude à la veille de ces élections, c'est que Brexit aidant, je crois que ça a joué un très grand rôle.
C'est important d'y passer un certain temps, parce qu'on voit aujourd'hui effectivement les partis nationalistes ne plus être opposés à l'Europe.
Regardez la France, c'est étonnant. Des partis qui étaient partisans du fait de quitter l'Union européenne, y compris le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, ont oublié, il ne reste plus que Asselineau, Philippot, et ici ou là, dans tel ou tel journal, un intellectuel frexiste. Mais c'est rare, je veux dire. Donc ça veut dire qu'il y a un tournant, qui est au fond que, au lieu de, comme hier, vouloir quitter l'Union européenne, on veut s'en emparer. On veut en prendre le contrôle.
S'emparer, ça veut dire quoi, très précisément?
Bon, s'emparer, c'est un mot un peu vague. Tout dépend des rapports de force, d'une part, tels qu'ils sortiront de cette élection et des suivantes.
Du scrutin du 26 mai.
Et deuxièmement, tout dépend de la capacité de ces forces à s'unir. Parce que c'est pas tout d'avoir beaucoup de députés. Il faut arriver, et on voit que c'est difficile, à trouver. Et ça a toujours été difficile pour ces forces.
Une raison?
Je crois que, par définition, quand on est nationaliste, on a des contradictions avec les autres nationalistes. Par exemple, Matteo Salvini a la position que vous savez sur les migrants. Donc ça veut dire qu'il demande aux autres d'accueillir des migrants. Viktor Orban n'est pas d'accord avec Matteo Salvini quand il s'agit de dire que la Hongrie va accueillir des migrants. On est dans des contradictions objectives. Donc leur propre politique amène à ces difficultés. Ce que je veux vraiment souligner, c'est que la capacité d'une force nationaliste unifiée à peser sur le Parti populaire européen, qui est lui-même fragile, c'est une capacité qu'il ne faut pas négliger. Et elle portera non pas sur le président de la Commission. Nous n'allons pas avoir un président de la Commission nationaliste, vu les rapports de force tels qu'ils se dégagent dans les sondages nationaux. Mais on peut avoir un président de la Commission sensible à la pression des nationalistes sur les questions d'austérité, sur les questions sociétales, et on le voit dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Si vous ajoutez à ça les questions de lois, je dirais, de caractère liberticide, qui ont été adoptées en Hongrie, en Pologne, en Autriche, qu'ils sont en train de l'être en Italie, on est quand même devant un ensemble de sujets sur lesquels ces forces unies peuvent peser sur le Parti populaire européen, c'est-à-dire sur la droite traditionnelle. Plus la question de savoir où va se trouver, par exemple, la République en marche. Une vraie question, ça.
Le parti au pouvoir en France.
Voilà.
Alors, moi j'ai cette question, Bertrand Badie. Comment on fait expliquer finalement que ces pays d'enseignement d'Europe de l'Est soient si aujourd'hui nationalistes qu'ils le sont?
Oui, alors juste une petite parenthèse d'abord. Ce qui est très important et inquiétant, c'est la propension des partis de droite traditionnelle à s'allier et à banaliser leur alliance avec ces formations d'extrême droite. C'est pour ça que ce que dit Dominique est d'autant plus important, parce que la même chose peut se produire à l'échelle européenne. Pensez que en Espagne, par exemple, pour le PPE, mais même pour Ciudadanos, qui était présenté comme le parti libéral moderne de l'Espagne, etc.
Le parti de Manuel Valls, pour le préciser.
Le parti de Manuel Valls, effectivement, déclare prêt à s'allier à Vox, la formation d'extrême droite. Et vous avez quantité de coalitions où cela marche, en Autriche par exemple. Et là aussi, vous avez en Autriche une extrême droite très dure qui est dans un gouvernement dirigé par un chancelier issu d'un parti de la droite traditionnelle. Alors maintenant, y a-t-il une spécificité de l'Europe de l'Est? Oui, bien sûr, qui tient à son histoire. C'est-à-dire, ce sont des sociétés qui, précisément, viennent de s'émanciper de la tutelle impériale soviétique, qui ont un système politique encore assez peu institutionnalisés, ce qui explique effectivement la poussée populiste dont je parlais tout à l'heure, ce sont aussi, il faut bien le comprendre, des sociétés qui, intégrées dans l'Europe, trop tôt intégrées dans l'Europe, ont un sentiment d'être dominées par celle-ci, en tous les cas par la partie occidentale de celle-ci. Donc effectivement, dans la tête d'un Orban, dans la tête des dirigeants ultranationalistes polonais, il y a toujours la même angoisse, c'est-à-dire être à la remorque d'une Europe occidentale, libérale, anciennement installée et dotée de l'essentiel des attributs de puissance. Donc, c'est bien par une riposte nationaliste que l'on se définit face au risque que représente le couple franco-allemand, mais pas seulement le couple franco-allemand, l'Union européenne telle qu'elle était. Maintenant, il faut quand même pas non plus sous-estimer le fait que ces gens d'extrême droite ont un projet sur l'Europe. S'ils y restent, c'est pour la bloquer et c'est pour ressusciter cette image dont le général de Gaulle, en son temps, mais le temps était tout différent, était porteur, qui est l'Europe des nations. C'est ça le cri de ralliement, l'Europe des nations. En gros, transformer l'Union européenne en ONU européenne, c'est-à-dire en une sorte d'assemblée d'États européens qui dialoguerait, échangerait, viendrait renouveler en fait ce qu'était dès le 19e siècle le concert européen, avec comme argument principal l'addition de souveraineté. Mais il faut faire bien attention à une chose, c'est que ce temps-là, il est absolument terminé. Alors, le temps de l'Europe des nations faisait sens au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'agissait d'une part de mettre fin aux guerres intestines européennes qui, depuis la guerre de 30 ans, peut-être même celle de 100 ans, n'arrêtaient pas en quelque sorte de rythmer l'histoire du vieux continent, et il s'agissait aussi d'opérer la reconstruction de pays exsangue, meurtri par la guerre. C'était ça, le premier projet européen, celui des pères fondateurs de l'Europe, qui voyaient quand même, eux, plus loin. Mais enfin, dans l'immédiat, les traités de Rome, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. L'Europe des nations n'a absolument aucun sens et aucune signification. Dans une logique d'interdépendance croissante, dans une logique de mondialisation, dans une logique au centre de laquelle se pose directement le problème de la solidarité sociale et des égalités sociales, eh bien, c'est d'une Europe intégrée dont on a besoin, dont il faut bien sûr mesurer et doser le degré d'intégration. C'est pas la fusion totale dans une Europe totalement unie, même pas les États-Unis d'Europe, mais c'est la mise en place d'un logiciel d'intégration sans quoi le modèle européen va totalement disparaître de la carte. C'est là qu'est le danger. Et c'est un danger probablement stratégique et conscient. C'est-à-dire, d'une part, protéger l'équation souverainiste des nations, mais d'autre part aussi démontrer que l'Europe, ça ne sera jamais l'intégration. Ça, ce sont deux périls qui vont un peu à l'encontre de ce qu'annonçait le président de la République quand il parlait de refonder l'Europe.
Dominique Vidal.
Oui, je voudrais essayer de répondre avec un autre éclairage à votre question. Peut-être il faudra y revenir, mais je crois que cette poussée populiste nationaliste, elle s'enracine dans la crise. Dans la crise produite et alimentée par la mondialisation. Mais elle serait incompréhensible, cette poussée, si on n'avait pas en tête cette question absolument nodale, qui est l'absence d'alternatives politiques. À droite comme à gauche, d'ailleurs. Mais à gauche, c'est très particulier, parce qu'au fond, c'est quoi l'absence d'alternatives politiques ? C'est une gauche orpheline de ce qu'a été le socialisme pendant de longues décennies, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui était indiscutablement un horizon pour des dizaines et des dizaines de millions de gens. Alors évidemment qu'à l'Est, ça se pose avec beaucoup plus de force, cette question-là. Parce qu'à l'Est, on a vécu la faillite du communisme, qui a été sur la fin une faillite quand même particulièrement évidente, la faillite du post-communisme et la faillite de l'ancienne nomenclatura devenue oligarchie au service de forces différentes. Tout cela laisse les peuples, je répète, orphelins. C'est-à-dire, il n'y a pas, quand on est tchèque, quand on est polonais, quand on est hongrois, etc., il n'y a pas de perspective de politique différente de celle de Kaczynski, d'Orban, de Kurz pour ce qui est de l'Autriche. On est dans un espèce de vide politique qui favorise évidemment ces forces. Et je crois qu'il faut avoir ça en tête, parce que sinon, on ne peut pas comprendre... écoutez quand même, juste pour la Hongrie, 68% des voix aux dernières élections ont été au Fidesz ou au Jobbik, aux forces nationalistes les plus dures.
On poursuit dans la deuxième partie de l'émission. On retrouve Bertrand Badi et Dominique Vidal après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique à 3 semaines des élections européennes, la question qui plus que jamais se pose est celle de savoir si les forces nationalistes, populistes, de droite et d'extrême droite pourraient devenir majoritaires au Parlement européen et prendre le contrôle de l'Union européenne ou tout au moins assez puissante pour contraindre le Parti populaire européen à s'allier avec elle. Nous retrouvons nos invités Bertrand Badi, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, auteur de très nombreux ouvrages, dont Quand le Sud réinvente le monde aux éditions La Découverte, et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur de l'Église nationaliste à l'assaut de l'Europe qui vient de paraître aux éditions Démopolis. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur la question des mouvements nationalistes dans l'Europe anciennement de l'Est. J'ai cette question pour chacun. Les populistes se prétendent démocrates. Que dire de leur relation à la démocratie, Bertrand Badi ?
C'est une relation complexe à plusieurs niveaux. D'abord, il y a dans tout nationalisme cette dimension populiste qui renvoie effectivement à la crise des institutions. Il faut voir que ces mouvements nationalistes sont en partie le fruit d'une désaffection à l'égard des institutions, d'un défaut de crédibilité, de légitimité des institutions. Lorsque les institutions sont fortes, et là j'en viens à mon deuxième facteur, on ne cherche pas à se tourner vers cette construction presque fantasmatique de la nation. La nation, c'est le refuge identitaire, et le refuge identitaire, c'est la négation de la délibération. C'est-à-dire, on ne délibère pas sur l'identité. L'identité, c'est le naturel, et il y a toujours cette racine naturaliste dans le discours nationaliste qui consiste à dire on sert une nation avant de délibérer sur celle-ci. Et puis, il y a un troisième élément qui est important, c'est que le nationalisme dans les pays européens est aussi une réaction à l'absence de démocratie dans le fonctionnement des institutions européennes. D'ailleurs, c'est un thème qui est très largement repris partout en Europe, à savoir, on vit sous la dictature de l'Europe et, ajoutons, de la technocratie européenne, soulignant que le citoyen européen, existe-t-il d'ailleurs, le citoyen européen a le sentiment de ne pas de tout peser sur les décisions européennes, que lorsque l'on vote aux élections européennes, eh bien on a l'impression de voter pour rien, ou en tous les cas on ne sait pas exactement pourquoi on vote. Donc à tous les pas de ce néo-nationalisme contemporain, on retrouve une faillite de la démocratie, faut l'admettre, une incapacité de démocratiser nos institutions, ou en tout cas de moderniser nos institutions démocratiques, et une sorte de réaction à ce défaut de démocratie. Alors, c'est d'autant plus important que, avec les thèmes identitaires, le nationalisme passe à une vision très peu politique du peuple et de la nation, ce qui est une vision excluante, ce qui vise notamment soit à refuser l'élargissement du droit de vote, notamment aux Européens pour les élections législatives présidentielles, ou aux immigrés pour les élections locales, qui étaient des thèmes porteurs autrefois et qui maintenant sont totalement repoussés, mais ça va même un tout petit peu plus loin que cela, c'est-à-dire la thématique nationaliste, c'est l'élargissement du domaine de ce dont on ne discute pas. La reconfiguration de la nation, alors ça évidemment, on le voit bien en Espagne, c'est-à-dire l'idée que les Catalans puissent s'exprimer de leur côté et éventuellement faire sécession, ça dans le schéma nationaliste c'est absolument insupportable et ça envoie directement en prison ceux qui militent pour cette cause. Mais il y a d'autres restrictions sur la logique délibérative, notamment, Dominique y faisait allusion tout à l'heure, tout ce qui tourne autour de la libération des mœurs et qui ne saurait en aucun cas entrer dans le champ du débat. Donc c'est aussi une image modifiée de la délibération démocratique. En même temps, on critique l'absence de démocratie des institutions, on se nourrit de cette critique, mais aussi, parallèlement, on tente à restreindre ce champ délibératif pour insister sur ce que j'appellerais la dictature des racines.
Dominique Vidal.
Je pense qu'il faut vraiment que nos auditeurs mesurent qu'il y a une globalité de la crise dans laquelle s'enracine le nationalisme en Europe aussi. Et c'est vraiment, comme l'a dit Bertrand, un nationalisme particulier. C'est un nationalisme communauté imaginée, comme disait Benedict Anderson. C'est-à-dire, c'est un nationalisme dur. C'est pas du tout le nationalisme de la Révolution française, qui se définit à l'inverse, comme la nation de tous ses habitants, d'une certaine manière. Alors, on a une crise économique et sociale, je crois qu'il faut le redire, on est quand même dans un monde où 80% des richesses, depuis des années, vont à 1% de la population. Mmh. C'est vrai de la France, c'est vrai de l'Europe, c'est vrai du monde. On a une crise d'identité, c'est-à-dire le flottement des grandes valeurs est tel qu'il y a une peur de ne plus se repérer dans le monde. Et cette peur, elle est évidemment utilisée, elle est exploitée par les nationalistes. Il y a ce que vient de dire Bertrand sur la crise des institutions, mais il faut mesurer où on en est. Je vous prends des chiffres qui sont très récents, c'est les derniers sondages. La confiance dans la présidence de la République en France est tombée à 34%. La confiance dans les médias à 30%. La confiance dans les députés à 26%. La confiance dans les partis politiques à 10%. C'est-à-dire, on est vraiment dans un affaissement démocratique. Et puis, il y a, et je crois que ça joue un rôle très important, la crise de souveraineté des États. C'est-à-dire, les gens ont l'impression que la seule protection pour eux, c'est le repli sur l'État-nation traditionnel, parce que l'Europe trahit au service des grandes institutions. Et alors, quand on regarde toutes ces forces nationalistes dont nous parlons depuis le début de l'émission, ce qui est étonnant, parce que politiquement c'est quand même un positionnement étrange, c'est qu'elles ont deux tropismes simultanés, un tropisme américain, on peut pas dire que Trump soit un modèle de démocratie, et un tropisme russe, on peut pas dire non plus que Poutine soit un modèle de démocratie. Et il y a là quelque chose qui est extrêmement inquiétant, parce qu'au fond, qu'est-ce que Trump ou Poutine ont en commun par rapport à l'Europe? C'est la volonté qu'elle n'existe pas. Qu'elle soit un paillasson sur lequel, je ne dirais pas les deux grandes puissances, parce qu'on sait qu'il n'y en a qu'une de grandes puissances, mais l'autre essaye de l'être. Donc il n'y en a même plus. On a une volonté. Et je crois qu'il faut arriver, je termine là-dessus parce que c'est très important, à sortir du schéma qui reste dans les têtes à propos de Vladimir Poutine et du régime russe. C'est-à-dire, on continue à faire comme si c'était la succession du communisme ou du socialisme réel, comme on disait, mais ça n'a strictement rien à voir. Il y a cette volonté de faire en sorte que l'Europe ne joue aucun rôle, c'est pourquoi Poutine appuie, y compris financièrement, toutes ses forces, on le sait. Il les réunit. C'est pas Steve Bannon. Mais on n'est pas loin de ça. Mais deuxièmement, je voulais dire juste en une phrase, il y a des points communs sur le fond entre Poutine et ses forces. Poutine n'est pas un homme de gauche. Poutine n'est pas un progressiste. Poutine, c'est quelqu'un qui a une vision profondément réactionnaire, non seulement de l'Europe et du monde, mais de l'homme. Pour autant qu'il pense tout ça, il le pense de manière profondément réactionnaire. Il n'y a qu'à voir la manière dont il a joué sur l'Église orthodoxe dans la guerre de Syrie, en demandant au pape de venir bénir les avions russes qui bombardaient en Syrie. C'est quand même significatif, je veux dire, d'un positionnement ou d'une manière de faire mine d'eux qui est particulièrement cynique.
Alors, posons-nous quelques instants précisément, Bertrand Badi, sur l'action de Vladimir Poutine, celle aussi de Steve Bannon, dont on peut rappeler nos auditeurs qu'il a largement contribué à la victoire électorale de Donald Trump, pour être ensuite viré, et le voilà qui a débarqué en Europe pour faire des réunions de concertation. Enfin, alors on disait à un moment que il y avait un certain fantasme par rapport à ces actions à la fois de Steve Bannon et de Vladimir Poutine. Vous en pensez quoi?
Non, je pense qu'il y a un alignement très clair des planètes. C'est-à-dire, comme le disait très justement Dominique il y a un instant, ni les États-Unis de Trump, ni la Russie de Poutine ne veulent entendre parler d'une Europe forte. Paradoxalement, la seule des puissances qui serait intéressée à ce que l'Europe renforce son union, c'est la Chine. Pour de toute autre raison, qui sont tout aussi intéressés et cyniques. Maintenant, il y a quelque chose, je crois, de plus profond et peut-être de plus inquiétant d'un certain point de vue. Parce que qu'est-ce que c'est Poutine? Poutine, c'est la production d'erreurs gigantesques commises par l'Occident après la chute du mur. C'est-à-dire visant à doublement isoler la Russie.
Humilier,
voilà, exactement. Humilier la Russie, c'est-à-dire en l'excluant du jeu international global, alors qu'elle était une superpuissance, et aussi en la marginalisant de l'Europe. Vous savez, ça c'est une très 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 ancienne histoire qui consiste à se demander si la Russie est dans l'Europe ou hors de l'Europe. Et depuis, finalement, la Renaissance européenne, cette question n'a cessé de se poser sous des formes diverses. Et là, la double gaffe qui a été commise en 1989, c'est l'exclure du jeu international, ce qui était difficilement acceptable pour un pays qui sortait de la superpuissance soviétique, mais aussi de la mettre en marge de l'Europe. L'Europe même avançait ses frontières jusqu'à l'intérieur de l'URSS en intégrant un certain nombre d'États, comme les États baltes, en son sein. Et donc, il y a une sorte de revanchisme très profond à l'égard de cette Europe qui a exclu, alors que l'Europe aurait pu intégrer la Russie. Non pas en la faisant entrer dans l'Union européenne, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais tout simplement en créant ce qu'on appelait à l'époque la Grande Europe et une instance à partir de l'OSCE, issue elle-même d'Helsinki, en créant un contexte de concert européen renouvelé. Ça n'a pas été fait, et donc il y a une volonté, non seulement de prise de revanche, parce que ça relève de la psychosociologie, mais une véritable stratégie politique qui s'est constituée en disant, bon, il faut affaiblir cette pression énorme qui est perçue effectivement à Moscou comme étant une pression très très forte sur le système russe, mais aussi faire le maximum de reconquêtes possibles, d'où la Crimée, d'où cette extraordinaire guerre des passeports entre Kiev et Moscou visant à intégrer finalement dans la société russe les populations du Donbass exactement, d'où aussi la pression sur les États baltes, d'où aussi le Caucase. Bref, il y a là une véritable géopolitique. En ce qui concerne les États-Unis, c'est un petit peu différent. Il y a effectivement le même choix stratégique qui consiste à éviter que l'Europe devienne cette puissance qui, il faut jamais l'oublier, a ravi aux États-Unis la médaille d'or en matière de commerce international. C'est-à-dire que la première puissance commerciale internationale, c'est l'Union européenne, y compris en excluant le commerce intracommunautaire, faut pas l'oublier. Donc il y a là une peur, et cette peur en ce moment avec le trumpisme est considérablement avivée. Il y a aussi une dimension idéologique. C'est-à-dire, on ne saurait trop rappeler que le trumpisme, ça n'a rien à voir avec le néoconservatisme, c'est presque son exact contraire. C'est-à-dire la revanche de l'intérêt national. C'est-à-dire cette espèce d'obsession de réhabiliter l'idée d'intérêt national, qu'on retrouve d'ailleurs en Russie sous une autre forme, mais ça devient un absolu dans le cas américain, et cette grammaire-là rend en quelque sorte les États-Unis parrains de cette espèce de renaissance néo-nationaliste européenne. Enfin, renaissance avec beaucoup de guillemets, bien entendu.
Alors, ce que vous disiez par rapport à l'Europe puissance commerciale, les décisions américaines d'augmentation des sanctions à l'encontre de l'Iran et de Cuba, évidemment, c'est aussi un moyen de contrer les Européens. Dominique Vidal, j'aimerais qu'on se penche un peu sur l'avenir de l'Europe. Alors, est-ce que cette vague nationaliste et populiste, est-ce qu'elle peut refluer et comment y parvenir? Pour l'Europe, quelles sont les priorités? Et la destruction de l'Europe, en quoi peut-elle être une menace pour le monde?
Ce qui est évident, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas de relance de l'Union européenne sur les bases qui sont les siennes aujourd'hui. Et il ne peut y avoir de relance qu'avec un véritable tournant qui fasse de l'Europe un lieu de solidarité. Un lieu où on lutte contre toutes les formes d'exploitation, contre toutes les formes de remise en cause des droits humains. Je veux dire, on voit qu'il y a du travail. Et malheureusement, les forces susceptibles de le faire ne sont pas particulièrement brillantes par les temps qui courent. Donc on a vraiment une inquiétude sur l'avenir. Je crois qu'il faut l'avoir en tête. Et j'y reviens, il y a cette volonté du côté américain comme du côté russe de saper le terrain, je veux dire. Et d'une certaine manière, Netanyahou ne fait pas autrement. À quoi servent les alliances de Netanyahou avec Viktor Orban, avec Jaroslav Kaczynski, avec Sébastien Kurz, etc.? Évidemment qu'elles servent à avoir du soutien pour Israël dans un monde où il est isolé. Mais elles servent aussi à saper, à diviser, à rendre l'Union européenne ingouvernable. Aujourd'hui, vous avez un parti pro-israélien, entre guillemets, extrêmement actif à l'est de l'Europe et qui joue son rôle à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il y a vraiment beaucoup de points d'interrogation. Je dirais, d'une certaine manière, il y a un certain nombre de points communs entre la situation française, qui n'est pas notre objet aujourd'hui, et la situation de l'Europe. C'est-à-dire, le cours qui a été pris est un cours qui est extrêmement inquiétant pour la suite. On a l'impression d'un risque, effectivement, de dislocation, et en tout cas une dislocation dans laquelle les grandes sociétés multinationales font plus qu'il ne le faut tout leur beurre. Parce que dans la dislocation, on continue quand même à exploiter.
Bertrand Badie, la destruction de l'Europe, une menace pour le monde ?
Oui, moi je partirais de l'équation inverse. C'est-à-dire la destruction de l'Europe, c'est son incapacité de vivre dans le monde, d'accepter de comprendre la mondialisation. On l'a dit pendant cette émission à quel point l'incompréhension, voire le rejet de la mondialisation conduit à cette poussée néo-nationaliste. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Vous savez, le mal de l'Europe, c'est qu'elle s'est toujours crue seule au monde. Elle a toujours considéré que le système international, c'était elle. Elle a eu beaucoup de mal, même à s'élargir au continent américain. Mais après tout, le continent américain, c'était d'autres Européens. Donc ça s'est fait quasi naturellement. Puis à un moment, surtout, on avait besoin des États-Unis. Donc l'élargissement s'est fait. Au-delà, on n'y parvient pas. Or, aujourd'hui, ne pas savoir se positionner dans la mondialisation, c'est s'asphyxier. Et ça, c'est probablement l'une des tares essentielles de l'Europe. Deuxièmement, cette incapacité incroyable de construire des partenariats avec les puissances émergentes. La mondialisation aujourd'hui, c'est les émergents. Faut pas oublier que les BRICS, c'est 36% du commerce mondial. Faut pas oublier que la transformation du monde, qui nous affecte directement, elle vient à l'initiative de ces puissances émergentes. Que fait l'Europe pour penser son partenariat avec les émergents ? C'est un sujet qui n'est jamais abordé. Troisièmement, une espèce de cécité énorme par rapport aux transformations du Sud. L'Afrique, ça sera à la fin du siècle 40% de l'humanité. Comment voulez-vous que l'Europe puisse se régénérer, se refonder, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, si elle ne sait pas remettre l'Afrique au centre des préoccupations mondiales ? Pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire, parce que l'Afrique, hélas, est pleine de conflits, et de conflits extraordinairement dangereux et extrêmement sanglants. Mais pour le meilleur aussi, parce qu'il y a un formidable appel d'air à l'innovation sur le continent africain, que les Européens ne voient pas. Moi, je n'entends jamais, notamment à la faveur de cette fausse et molle campagne électorale européenne, parler des rapports Euro-Afrique. Pourtant, c'est là que les choses vont se passer. Troisièmement et dernièrement, être dans la mondialisation, ce n'est plus être une puissance. La mondialisation ne se gouverne pas à partir de l'équation classique de la puissance, c'est-à-dire la puissance militaire, que ce soit les interventions militaires sur les théâtres extérieurs dont la France est si friande, ou qu'il s'agisse de toutes ces autres manifestations de puissance, y compris de puissance économique, qui sont assénées au reste du monde. Non, la mondialisation, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est savoir régénérer l'Europe à partir de ce qu'elle peut bénéficier d'un apport en partenariat des autres pays, notamment des pays du Sud. Ça, ce sont des questions, mais alors, totalement ignorées. J'ai été frappé, ça n'a pas un rapport direct, mais quand même, le président de la République française a tenu une conférence de presse capitale pendant près de 3 heures. Il n'a jamais été question de l'international. Mais comment peut-on envisager l'avenir de la France sans le placer dans le contexte international, et a fortiori de l'Europe, sans le replacer dans ce même contexte international ?
Dominique Vidal, en guise de conclusion.
Mais en guise de conclusion, je dirais que Bertrand a tort. La question du monde est très présente dans la campagne électorale, sous la forme de l'islam politique,
oui,
et de la migration. Mmh. La seule chose que nous savons du monde dans cette campagne électorale, c'est ce que le monde nous apporte de soucis. On est quand même dans une drôle de dégénérescence politique qui amène effectivement à une cécité totale sur la réalité du monde d'aujourd'hui. Parce que quand Bertrand parle des alliances, c'est des alliances qui sont souhaitées de l'autre côté. Il y a une volonté de partenariat, il y a une volonté de travailler ensemble. Tout cela est totalement absent, et quand on regarde les débats des têtes de liste, on est effaré.
Alors, si on doutait des enjeux du scrutin européen du 26 mai, je crois que vous avez bien remis les pendules à l'heure. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Bertrand Badie. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, auteur de très nombreux ouvrages, donc Quand le Sud réinvente le monde aux éditions La Découverte. Et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur de Les Nationalistes à l'assaut de l'Europe, qui vient de paraître aux éditions Démopolis. Géopolitique était cinéma et France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.